Jean Lerède est psychothérapeute de son métier. Il est aussi l'auteur de différents ouvrages dans le domaine de la psychologie. Aujourd'hui, il sera plus particulièrement question de l'un d'entre eux, un livre dans lequel l'auteur nous parle de la fonction créatrice psychospirituelle des mythes, des symboles. C'est un livre qui a été publié aux éditions de Mortagne et qui a pour titre « Les troupeaux de l'aurore ». Jean Lerède, en lisant « Les troupeaux de l'aurore », en fait, on en retire une impression assez troublante en ce qui concerne l'être humain. Notre fonctionnement psychologique tel qu'on le connaît actuellement, et d'ailleurs aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire, nous apparaît à travers votre livre comme étant essentiellement malade, finalement, pathologique. Est-ce que c'est exact ou bien si je dramatise un petit peu vos...
Non, je crois que vous ne dramatisez rien, hélas. C'est tout à fait ce que je crois. Je crois que l'espèce humaine actuelle, et depuis fort longtemps, depuis des milliers et des milliers d'années, est en effet malade. Elle est malade, elle est pathologique, elle est mal adaptée. C'est une espèce qui est mal adaptée à sa condition. Alors, ça peut paraître un petit peu pessimiste. On peut se dire, bon, enfin, tout de même, là, il y a quand même des bonnes choses dans la vie, c'est vrai. C'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'aspects positifs dans toute cette histoire depuis des milliers d'années. Mais quand même, si on considère l'ensemble, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait que, depuis des milliers et des milliers d'années, les conflits, les guerres n'ont pratiquement jamais cessé. Les meurtres, les génocides, et notre siècle est malheureusement, nous en a fourni des démonstrations trop éloquentes avec deux guerres mondiales qui ont fait enfin, plusieurs dizaines de millions de morts, dont beaucoup sont été les victimes de... Enfin, sont morts dans des circonstances dramatiques. Je crois qu'il n'y a pas de quoi, être très optimiste sur la santé de la race humaine et sur son adaptation. Ce n'est pas très normal qu'il en soit ainsi. Maintenant, si on place sur le plan individuel, sur le plan de ce que sont les femmes et les hommes de tous les temps, et d'une autre en particulier, on n'a quand même pas l'impression que dans l'ensemble, les gens soient tellement heureux. Il me semble que, peut-être surtout à notre époque, l'anxiété, l'angoisse, le mécontentement sont hélas des réalités assez constatables et ne sont guère niables. On constate aussi un autre point de vue, un point de vue plus général, un point de vue psychologique, que en fait, dans la race humaine actuelle, il semble y avoir un divorce, une espèce de scission, entre au fond les fonctions rationnelles et puis tout ce qui est du domaine affectif. On a l'impression que ce sont deux mondes qui sont importants l'un et l'autre, mais qui coexistent assez mal. Mm-hmm. Il y a une espèce d'état conflictuel entre l'un et l'autre.
Mais est-ce que, en fait, si j'ai bien compris, le mythe de la chute, de la faute originelle qu'on trouve dans les Genèses, ce mythe raconterait, selon vous, l'origine de ce déséquilibre psychologique?
Je crois, oui, personnellement, je crois que, de façon générale, les mythes et les symboles sont un langage étrange, un langage oublié, comme disait le psychologue Fromm. Je crois qu'en effet, les mythes et les symboles racontent, dans des termes imagés, sous forme d'histoire, qui nous semble un peu enfantine parfois, en réalité, c'est un langage qui recouvre des réalités fondamentales dans l'être humain qui nous informe, qui essaie de nous éclairer sur ce qui se passe.
Ce qui serait le cas du mythe d'Adam et Ève.
Oui, le mythe d'Adam et Ève, effectivement. Et le mythe d'Adam et Ève, je crois que, bon, quand on raconte cette histoire de la Genèse, là, Adam, Ève, le serpent, toi, ça nous paraît un petit peu dépassé, un petit peu enfantin. Nous avons l'impression que ça ne nous concerne que d'assez loin. En fait, je crois que c'est extrêmement concret et pratique si on essaie de trouver quel est le sens caché, enfin le sens psychologique de toutes ces histoires. Bien, d'abord, vous parlez du mythe d'Adam et Ève. Tout d'abord, il est assez frappant que les noms bibliques, Adam, Ève, ce sont des noms qui ont une signification. Ils ne s'appellent pas Adam comme d'autres s'appellent Pierre, Paul, Jacques ou Simone ou Ginette, n'est-ce pas? Adam est un nom qui, en hébreu, a une signification très précise. Adam, ça veut dire qui vient de la terre, ça veut dire ferme, solide, qui vient de la terre. Bon, une interprétation psychologique peut proposer d'y voir le conscient. Ce qui est en nous est conscient, ce qui vient de la terre, ce qui vient de l'extérieur, ce qui est donc rationnel, puisque la rationalité est le reflet du monde extérieur dans nos structures mentales. Et Ève, au contraire, le mot Ève signifie, dans la langue hébraïque, Ève signifie qui donne la vie profonde. Et il est intéressant de remarquer que, en hébreu, le mot Ève est à la même racine que le mot Dieu. Pas Dieu, en hébreu, se dit Yehowah, et le mot Ève, en hébreu, se dit Eowah. La racine est la même, ça signifie qui donne la vie, qui éclaire.
Qui est un lien avec la vie divine.
C'est ça. On peut donc penser, légitimement, que cette affaire d'Adam et Ève, en réalité, c'est une sorte de scénario, de drame psychologique dans lequel les deux protagonistes représentent l'un le conscient, à savoir Adam, et l'autre Ève, l'inconscient et plus précisément ce que j'ai proposé d'appeler le surconscient, c'est-à-dire cette instance profonde, plus profonde de nous-mêmes, qui est en fait une instance directement reliée à Dieu.
Qui est l'intuition finalement.
C'est ça, on pourrait appeler ça l'intuition profonde ou le surconscient ou Dieu. Ce sont des expressions qui, à mon sens, sont équivalentes et qui soulignent les unes les autres, si on décide d'adopter un vocabulaire psychologique comme surconscient, qui désigne cette instance psychologique fondamentale qu'on trouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures, sous le nom de Dieu. Dieu qui vient du sanskrit, qui signifie, vient du sanskrit div, qui signifie lumière. Il y a donc une sorte de lumière intérieure au fond de chaque être humain.
Et la faute originelle, à ce moment-là, ça aurait été quoi, de soumettre cette faculté d'intuition à la faculté rationnelle ou quoi?
Oui, je crois qu'en effet, c'est ça. Je crois que, vous savez, dans l'histoire de la faute originelle, il y a d'abord un épisode où on voit Dieu qui, après avoir créé l'homme, l'installe dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Il met l'homme dans le jardin. Alors, le jardin d'Éden, Éden, ça veut dire harmonie, jardin des délices. On peut penser qu'il s'agit d'une harmonie intérieure. Bon. Et Dieu, poursuit le récit, plante dans le jardin deux arbres, enfin toutes sortes d'arbres agréables à manger, et puis au milieu du jardin, précise le récit, au milieu du jardin, il plante l'arbre de vie. Et à côté, un autre arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, un petit détail, mais qui est fort important, c'est que dans les traductions françaises, le mot connaissance est simplement traduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais si on se rapporte au texte hébreu, on constate que le mot hébreu traduit par connaissance a une connotation plus précise. Il s'agit, dans la langue hébreu, d'une connaissance intellectuelle, d'une connaissance rationnelle du bien et du mal. Et alors Dieu, quand il a installé l'homme dans le jardin, lui a dit « tu peux manger de l'arbre de vie, mais de l'arbre de la connaissance intellectuelle du bien et du mal, tu ne dois pas en manger. » Car, dit le texte, si tu en manges, la plupart des versions traduisent inexactement en disant « tu mourras ». Mais le texte original est plus précis. Il dit « la mort entrera dans la vie ». C'est important, ça. La mort entrera dans la vie si tu manges de l'arbre de la connaissance intellectuelle du bien et du mal. Alors, c'est ce qui va se passer, effectivement, lorsqu'intervient un autre protagoniste dans ce drame, qui est le serpent. Alors, c'est ce serpent qui parle, n'est-ce pas? Évidemment, une image mythique. Et alors, ce serpent qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Il va tenter la femme. Il aurait pu tenter l'homme. Mais ce n'aurait pas été vraiment une tentation. Parce que le serpent, en réalité, le serpent, lui, va représenter l'intellect. Pourquoi? Parce que le serpent, d'abord, c'est un animal qui rampe dans la poussière, qui ne peut pas décoller de la terre, qui n'est pas capable, en principe, d'élévation spirituelle, il ne se tire pas debout. Bon, enfin, sauf exception. Et ce serpent va tenter la femme en lui disant « Pourquoi ne mangez-vous pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance intellectuelle? Vous serez comme des dieux, vous allez tout connaître. » Et en fait, la piqûre du serpent est mortelle. Et c'est en succombant à cette tentation de manger de l'arbre de la connaissance intellectuelle du bien et du mal que se produit la chute. C'est-à-dire que les êtres humains, en réalité trop fortement impressionnés par l'activité déployée dans le monde extérieur, tentaient également de chercher par la raison seule la solution à leurs problèmes et la solution des problèmes d'adaptation à la vie. Je crois que la chute, c'est précisément cela. Au lieu de se contenter de manger de l'arbre de vie, c'est pas de l'arbre de l'intuition profonde qui est au milieu du jardin, c'est au milieu de leur psychisme, au plus profond de celui-ci, bien malheureusement, la race humaine a subi cette tensation, et elle est passée par ce désastre qu'est la chute.
Qu'est-ce qui vous fait penser, cependant, qu'il s'agit véritablement d'un libre choix, que cet état d'infirmité psychologique résulte d'un libre choix, à part le fait que le mythe le dit, là?
Bien, il y a le fait que le mythe l'ait dit, ce n'est pas une preuve en soi, bien sûr.
Non, parce que ça pourrait être une fatalité, une condition inhérente à l'évolution de l'espèce.
En effet, on pourrait se poser cette question. Mais outre que le mythe, lui, ne donne pas cette réponse-là, puisqu'il fait de la chute une faute vitale, pas un péché, mais c'est pas une faute vitale, c'est une erreur vitale, une erreur d'évolution. Mais d'autre part, nous pouvons constater que, en fait, cette affaire de chute, ce n'est pas une fatalité parce que ce problème-là, qui est évoqué dans le mythe, nous le vivons, nous-mêmes, à l'heure actuelle, les êtres humains, toujours de la même façon.
Vous voulez dire qu'on refait le même choix?
Nous refaisons le même choix chaque jour sans nous en rendre compte. Chaque jour sans nous en rendre compte, au fond, nous laissons le monde extérieur, nous laissons la raison humaine maîtresse du terrain au détriment de l'intuition profonde et avec des conséquences désastreuses aussi bien au point de vue collectif qu'au point de vue individuel. Donc c'est un drame qui reste profondément actuel et qui nous concerne tous personnellement, si on admet bien entendu cette interprétation mythique que je viens de proposer.
Alors vous voulez dire que constamment il y aurait moyen de renverser ce choix en prenant conscience?
Et oui, s'il s'agit d'un choix, ça implique la possibilité de choisir à nouveau.
À ce moment-là, on n'est plus des complices, on n'est plus des victimes, on est des complices.
C'est ça, à ce moment-là, nous devenons en quelque sorte des complices, c'est-à-dire qu'il y a possibilité, il y a dans l'être humain les ressources nécessaires pour renverser la situation et, pourrait-on dire, peut-être pour retourner dans le paradis perdu et pour, au fond, contrecarrer, pour contrer les conséquences de la chute. Je crois qu'individuellement, nous pouvons le faire.
Mais une fois constatée cette infirmité psychologique et la possibilité de renverser la situation, qu'est-ce qui vous amène, en tant que thérapeute, à vous intéresser si particulièrement, justement, à tout cet univers des mythes, des symboles, des textes sacrés, mythiques au sens profond du terme? En quoi est-ce que tout ça vous semble porteur de solutions?
Bien, les mythes sont porteurs de solutions dans la mesure où ils représentent un langage qui ne s'adresse pas précisément à la raison. Et je crois que le malheur qui est arrivé aux mythes à travers la plupart des institutions religieuses depuis des milliers d'années, c'est que ces institutions en ont fait des réalités spatio-temporelles, il y a des réalités plus ou moins rationnelles. Or, les mythes et les symboles ne sont pas de cet ordre-là, ils n'appartiennent pas à ce monde-là. Les mythes et les symboles sont en réalité des sortes de neurotransmetteurs, des sortes de programmateurs de l'inconscient profond. Et à ce titre, ils doivent être absorbés. Je vais faire appel là à l'instant à une théorie qui commence à être, enfin, avoir un certain succès depuis quelques années. Vous savez, cette distinction entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche serait le cerveau qui préside à la rationalité, à la vie quotidienne, à la volonté, enfin à toutes les fonctions conscientes. Et au contraire, le cerveau droit serait chez la plupart des gens, serait la partie du cerveau qui correspond aux sentiments, aux émotions, à l'intuition profonde. Et je suis convaincu personnellement que c'est par le cerveau droit que les mythes et les symboles doivent être absorbés, et pas par le cerveau gauche. Ce qui implique évidemment le silence du cerveau gauche, en d'autres termes, le silence de la raison. Ce n'est pas antirationnel, c'est simplement une question...
C'est autre chose.
C'est autre chose, c'est une autre faculté qui rentre en ligne de compte.
Donc ils sont faits pour réactiver en nous la fonction intuitive.
C'est ça, je crois qu'on pourrait dire que ce langage oublié des mythes et des symboles est exactement fait pour réactiver, pour réveiller en nous la fonction intuitive perdue, la fonction intuitive qui a pratiquement été annihilée dans l'espèce humaine depuis déjà des milliers d'années.
Au fond, pour libérer en nous les troupeaux de la rare, finalement.
Oui, un peu d'allusion au titre du livre, effectivement. Ce titre peut paraître un petit peu étrange. Les troupeaux de l'aurore, c'est un titre poétique qui a été emprunté, que j'ai trouvé dans les hymnes védiques indiens, dans les très anciens hymnes védiques, dans le Rig Veda. J'ai trouvé que le titre est très beau. Et ce qui est peut-être plus beau encore, c'est l'histoire elle-même que racontent les hymnes védiques, la légende des rishis. Je vais peut-être vous la raconter rapidement, brièvement. Cette légende des rishis, c'est que les rishis sont les anciens, sont les gens qui ont trouvé la lumière. Et alors, le récit védique nous explique d'abord comment elle a été perdue, cette lumière, comment a été perdue l'intuition profonde. Parce qu'en fait, le récit védique raconte la même histoire que la Genèse hébraïque. Hein. Quelques milliers d'années avant, c'est sensiblement le même problème, et la même histoire et la même solution. Bon, seulement c'est exprimé autrement, en d'autres termes, dans un langage mythique différent. Alors, l'histoire des rishis, ce sont donc ces personnages, ce sont des êtres humains qui ont perdu la sûreté instinctive, la sûreté de l'intuition profonde, et puis qui doivent aller la rechercher. Alors, le récit védique dit que les vaches de l'aurore ont été volées. Qu'est-ce que c'est que ces vaches de l'aurore? Vous savez que en Inde, la vache est l'animal sacré. C'est l'animal sacré. En sanskrit, le mot vache se dit gau, qui en anglais a donné cow, en allemand cou, etc. Et ce mot en sanskrit qui signifie la vache signifie également l'illumination intérieure. C'est-à-dire que l'illumination intérieure a été perdue, elle a été volée. Ces vaches étaient en train de paître paisiblement dans les champs du soleil, dit le récit, et puis brusquement elles ont disparu, on est venu les voler. Alors qui les a volées? Le récit védique dit que ce sont des individus qui s'appellent les panis. Alors les panis, ce sont des marchands, des trafiquants exactement, dit le récit védique. Des trafiquants, ce sont des gens qui sont avides de possessions matérielles et qui ne s'intéressent qu'au monde extérieur. Alors ces panis ont dérobé les vaches de l'aurore.
Ils les ont enfermées
dans une caverne au fond de la terre. c'est-à-dire au plus profond de l'inconscient, si on admet toujours ce parallélisme entre le récit mythique et puis sa signification psychologique profonde. Alors, il faut que les rishis aillent délivrer ces vaches. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils récupèrent l'intuition profonde, l'illumination profonde, capable de contrer cette mutilation que représente le rationalisme excessivement tourné vers l'extérieur, qui est celui des panis, symbolisé par les panis. Alors les rishis se mettent en route, mais ils ne peuvent pas faire ce voyage tout seuls. Ils ont besoin d'être guidés par le dieu Indra. Il faut qu'il y ait un dieu qui intervienne là-dedans, un dieu du panthéon indien. Alors, le dieu Indra, qui est un dieu fils, intervient, prend la tête des rishis, et puis les guide vers le centre de la terre. Mais avant de parvenir dans la caverne où sont enfermées les vaches, où les vaches sont prisonnières, il faut que les rishis acceptent de mourir. Il faut que le dieu Indra les tue. Il faut qu'ils acceptent le sacrifice de leur vie ancienne pour renaître à la vie nouvelle. Et lorsque ce sacrifice est accompli, lorsqu'ils ont accepté de l'accomplir, à ce moment-là, brusquement, la caverne s'illumine, les vaches se portent bien, les panis, les voleurs disparaissent, et avec les vaches apparaissent d'autres animaux, les chevaux de l'aurore et aussi, les chevaux solaires, qui sont à la fois des symboles de mort nécessaires, précédant la résurrection nécessaire. Ce sont des symboles de du dynamisme spirituel récupéré, alors que les vaches représentent l'illumination intérieure. Alors, ensuite se forme une sorte de cortège où on voit le dieu Indra à la tête, et puis les rishis, et puis les troupeaux de l'aurore, chevaux et vaches, qui repartent vers la lumière, qui repartent vers les champs divins qu'ils n'auraient jamais dû quitter. En réalité, c'est un récit qui montre évidemment que la solution est la même que celle indiquée dans la Genèse, et le récit de la chute est le même. C'est dans la mesure où la raison a envahi des aires profondes de l'être humain que les choses ont commencé à se gâter et que cette lumière que représente l'intuition profonde a été perdue. Il s'agit de la récupérer.
Donc ce processus, c'est un processus de mort et de nouvelle naissance qui amène la régénération psychologique de l'être humain.
Oui, je crois que ce processus de mort et de nouvelle naissance, c'est ce que l'historien des religions Mircea Eliade appelle le mythe primordial, un mythe dont il affirme, à juste titre, je crois, qu'on le trouve pratiquement sous des formes diverses dans toutes les cultures religieuses, quelles qu'elles soient. Il faut mourir dans cette vie pour renaître dans cette vie. Et pas après la mort physique, mais dans cette vie-ci.
Jean Le Raide, même si on sait que vous vous intéressez à toute culture mythique, quelle qu'elle soit, on a le sentiment, en tout cas en lisant Les Troupeaux de l'Aurore, que pour ce qui est de votre univers spirituel, personnel, il semble en tout cas être essentiellement centré sur la tradition judéo-chrétienne, sur l'Évangile en particulier. Est-ce que c'est exact ou...
Oui, c'est exact. Enfin, oui et non. Oui, dans la mesure où, effectivement, la tradition judéo-chrétienne, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ont représenté pour moi un cheminement personnel. Dans ma propre histoire personnelle, je suis passé par là.
C'est-à-dire que vous avez découvert cette tradition, comment est-ce que ça vous vient de votre enfance, de votre milieu familial?
Ben, pas vraiment, non, je dirais même plutôt sur celle contraire. Enfin, j'ai été élevé dans la religion catholique, mais très tôt, vers 13 ou 14 ans, peut-être parce que j'ai eu une enfance et une jeunesse malheureuse dans un milieu qui était un milieu catholique, j'ai été amené à douter fortement et à mettre en cause les vérités religieuses qu'on me présentait. Et il me semblait, simplement en regardant vivre les adultes au milieu desquels j'ai grandi, que c'était des gens qui, manifestement, ne vivaient pas ce qu'ils affirmaient croire. Et petit enfant ou adolescent, c'était une chose qui me choquait profondément, qui me scandalisait même. Et vers 13 ou 14 ans, il m'a semblé évident qu'il n'y avait pas de vérité de ce côté-là. Un peu plus tard d'ailleurs, vers 16-17 ans, je n'ai plus jugé les gens. Je me suis rendu compte que, en fait, à un certain point de vue, je sentais instinctivement qu'ils n'étaient pas responsables de ça, et je ne pouvais pas les juger. Mais il me semblait aussi qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel. Et que ce quelque chose, ils ne trouvaient pas dans leur religion. Il me semblait qu'il leur manquait peut-être le secret du bonheur et le secret de l'amour. C'était des gens qui prétendaient s'aimer, puis ça se terminait toujours très mal, étrangement mal. Alors ça m'intriguait, et en même temps, au fond de moi-même, j'avais la conviction qu'il devait être possible de trouver ça, de trouver, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas dans quelle voie prendre.
Et vous avez cherché un peu dans toutes les voies, je pense.
Pas un peu, j'ai cherché énormément et dans beaucoup de voies.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans la voie judéo-chrétienne
Je crois que paradoxalement, ce qui m'a attiré dans cette voie, c'est tout un événement qui semblait n'avoir aucun rapport du tout avec cette voie-là. C'est un événement qui se situait dans ma vie personnelle à l'âge de 17 ans. C'était en 1940. J'ai vécu la défaite française, l'effondrement d'un pays, la fuite de millions de réfugiés sur les routes dont j'étais. Et pour moi, ça a été un traumatisme très fort. J'étais lié à l'effondrement d'un pays que j'aimais et de valeurs auxquelles je croyais. Ça a été très douloureux et même dramatique. Et je me souviens qu'un matin du mois de juin, la 40, où vraiment je vivais de façon extrêmement douloureuse, extrêmement souffrante, cet effondrement-là, brusquement, sans trop que je sache pourquoi, du fond de cette douleur que je vivais, et du fond même du désespoir qui était le mien, brusquement, une sorte de force étrange que je ne connaissais pas, s'est éveillée en moi et m'a donné une résolution inébranlable de chercher jusqu'à ce que je trouve. Tout s'était écroulé autour de moi, la religion, le pays, et puis les valeurs familiales et autres. Et cependant, subsistait en moi, extrêmement fort, un instinct de bonheur et une passion pour la vie. Et il me semblait confusément qu'il était impossible que je ne trouve pas ce quelque chose que je ne pouvais pas nommer, d'ailleurs. Alors je me suis mis à le chercher, un peu dans toutes les directions. Entre 17 et 30 ans, ça a été une recherche fondamentale. J'ai cherché partout. J'ai cherché tout le temps en continuant mes études ou en travaillant. Mais j'ai cherché dans l'art, dans les philosophes, dans la psychologie, dans la politique, dans l'amour, dans l'amitié. Et j'ai trouvé de grandes joies dans tous ces domaines-là, mais je n'ai pas trouvé la réponse à la question que je me posais. Et plus les années passaient, et plus je commençais à m'inquiéter, je commençais à douter, ce dont je ne doutais pas du tout au début. Au début, j'étais persuadé que j'allais trouver. Et puis en fait, j'attrapais 26 ans, 27 ans, 28 ans, et évidemment, je ne trouvais pas. Et alors je sentais une sorte d'inquiétude, puis d'anxiété, puis d'angoisse qui montait en moi devant ce fait que malgré toute ma bonne volonté, elle était immense, je n'avais toujours pas trouvé ce quelque chose que je cherchais, et que je ne savais même pas nommer. Et vers un petit peu avant la trentaine, brusquement, j'ai eu le sentiment que je ne trouverais jamais, et que toutes les recherches que j'avais faites depuis 13 ans déjà, toutes les privations que je m'étais imposées, toutes les choses auxquelles j'avais renoncé à beaucoup de choses au profit de cette recherche-là, que tout ça, ça avait été vain, je ne trouverais pas, et que c'était raté, que c'était manqué, que ma vie était finie, et que je ne pouvais plus vivre, puisque je n'avais plus cet espoir de trouver. Alors c'était dramatique, là, pendant 3 mois, ça a été vraiment épouvantable. Je suis passé par une sorte de mort intérieure, d'agonie intérieure, ça a été horriblement douloureux. Et j'ai abouti, en fait, au bout des 3 mois, à être sur le point de mourir, de m'ôter la vie, parce que, pourtant, je n'étais pas ce qu'on appelle du tout suicidaire, je n'avais pas envie de mourir, je me cramponnais toutes mes forces à la vie, parce que j'adorais la vie, et en même temps, il y avait en moi une sorte de force, le désespoir qui me saisissait, et puis qui me poussait irrésistiblement vers la mort.
Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là?
À ce moment-là, il s'est produit, un certain matin de décembre 52, il s'est produit que, par hasard, je suis tombé un matin, c'était le jour, d'ailleurs, où je pense que je serais mort ce jour-là. Je serais donné à la mort ce jour-là. Et je suis tombé par hasard sur un article d'un petit journal qui traînait là par là. Et qui disait que, étrangement, l'évangile, Jésus, était la solution de la vie apportée à des gens qui avaient le cœur brisé, à des gens qui avaient manqué leur vie. Et qu'il était possible de recommencer et de la reprendre et la trouver sur d'autres bases. J'étais extrêmement loin de tout ça. J'étais très loin de la religion, très loin de tout ce qui pouvait toucher à la Bible, à Jésus. Ça ne m'intéressait absolument pas. Mais cependant, parce que j'étais en train de me noyer... Ça a été le déclencheur. Et avec stupéfaction et avec tremblement, je me suis dirigé vers cette direction-là.
Malgré votre affinité avec cette personne de Jésus, oui. Vous semblez dans votre livre nier ce que la tradition chrétienne dans l'ensemble lui reconnaît, c'est-à-dire la divinité.
Oui, parce que pour moi, il n'a pas été et il n'est pas un dieu, au sens où la tradition chrétienne le dit. Ce qui m'a touché personnellement, ce qui m'a aidé à sortir du malheur et du désespoir et de la détresse, et ce qui m'a aidé à trouver une vie heureuse par la suite, c'est dans la mesure où j'ai vu personnellement en Jésus, non pas un être divin, non pas un être venu d'un autre monde, ou venu du ciel, ou très différent des autres êtres humains, mais un être humain comme moi. Un être humain qui avait eu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés.
Une expérience par laquelle vous pouvez passer.
Ah oui,
vous-même.
Et dont l'expérience me semblait étrangement voisine de la mienne. Je dis ça en toute modestie, mais je veux dire que sur le plan de la douleur et de la souffrance, et de la solution apportée à la douleur et à la souffrance, l'écho était immédiat. Enfin, je l'ai senti très profondément. Et je veux dire que ça a vraiment orienté ma vie.
Mais est-ce qu'il ne dit pas de lui-même quand même qu'il est le Fils unique de Dieu ?
Oui, c'est vrai, Jésus dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Mais je pense personnellement que c'est un terme symbolique, que nous sommes tous le Fils unique de Dieu. Comme le dit la première épître de Jean, celles et ceux qui ont le Fils de Dieu ont la vie, et ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas la vie. Je pense que le Fils de Dieu, c'est un terme symbolique qui désigne l'intuition profonde, l'intuition appelons-la divine, en termes symboliques, qui désigne le surconscient dans l'être humain. Et je crois que chaque être humain porte le Christ en lui, à l'état virtuel.
Autrement dit, l'incarnation, ce serait justement de devenir, que chacun de nous devienne le Fils unique de Dieu.
Je crois tout à fait. Je crois que l'incarnation, c'est une réalité fondamentale et que ça signifie simplement que Dieu, cette faculté mystérieuse qui est au fond de nous-mêmes et qui semble tellement loin de l'être humain tel que nous le connaissons, en réalité, fait partie intégrante de notre être et au plus profond, et que le problème de la vie, c'est précisément de trouver cela.
Alors Jésus, lui, aurait été celui qui aurait ouvert la voie.
Oui, à mon avis, Jésus, comme le dit d'ailleurs l'Épître aux Romains, Jésus est le premier-né, je cite textuellement, Jésus est le premier-né entre un grand nombre de frères. Or, moi, Jésus me touche dans la mesure où c'est un être humain qui a vécu les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, et qui a trouvé une solution qui me semble être la bonne, c'est-à-dire la solution de la régénération, de la vie nouvelle, et la solution de l'amour. L'amour, quand j'emploie le mot amour, d'ailleurs, ce n'est pas dans un sens sentimental, ce n'est pas d'ailleurs seulement le sentiment auquel je pense, mais quelque chose de plus large, qui est un état de conscience, un mode de fonctionnement de l'être humain, qui est précisément l'amour.
Jean-Louis Jean, merci.